Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu ? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise !
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes bien sur Syllab, sur le 88.4 FM.
Nous sommes des jeunes inscrites à WeCare, la mission locale de Rennes. Et ce matin, on prend l'antenne de votre radio préférée.
On a pu créer notre propre émission grâce aux ateliers de l'équipe de la radio.
On a pris beaucoup de plaisir à réaliser nos sujets. On espère que ça vous plaira.
Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui ?
Eh bien, on parlera des différentes méthodes de contraception et du manque d'informations dont on dispose pour pouvoir connaître son corps et faire les choix les plus adaptés.
En effet, Ami, tu nous as préparé une chronique cousue main pour défendre ce sujet qui te tient particulièrement à cœur.
Ouais, et toi Adèle, tu vas nous parler d'un sujet très important pour toi aussi. Tu vas nous parler du déclin de la population des oiseaux.
Enfin, Julien s'est rendu au musée de Bretagne pour vous faire découvrir une toute nouvelle expo. Cette dernière se nomme Face au mur et présente une belle collection d'affiches.
Un moyen d'expression privilégié des luttes politiques, un graphisme engagé que nous propose de découvrir le musée de Bretagne. En nous faisant voyager dans les années 70 à 90, Julien, tu as rencontré la directrice. On écoutera votre échange en fin d'émission.
C'est parti, on démarre ce beau programme.
On commence cette émission avec un premier sujet. Ami, tu as voulu nous parler de la contraception, ou plutôt devrais-je dire des contraceptions.
Tout à fait, je vais vous parler de la contraception. Mais je vais surtout vous parler de désinformation, violences gynécologiques et pilules. Pour démarrer en douceur, qu'est-ce que la contraception ? Eh bien, c'est un ensemble de moyens employés pour rendre les rapports sexuels inféconds. Mais quels sont ces moyens de contraception, justement ? J'ai été moi-même demandée aux étudiants et étudiantes de Rennes 2, et ils et elles vont vous répondre.
Alors, quel moyen de contraception connaissez-vous ?
Plusieurs. Alors, tu veux que je les liste ? Alors, donc, il y a la pilule contraceptive, il y a l'implant, le préservatif masculin et féminin, le patch, l'anneau vaginal, l'injection contraceptive, le stérilet. Voilà, ceux que j'ai en tête, en tout cas.
Alors, la pilule contraceptive, le stérilet hormonal, le stérilet en cuivre, y a l'injection, le patch hormonal aussi, l'implant contraceptif, j'en ai un dans le bras en plus, le préservatif féminin masculin, et là c'est tout ce qui me vient à l'esprit.
Les préservatifs, la pilule, le stérilet. L'implant. Voilà.
Eh bien écoutez, du coup, il y a différents moyens de contraception. Je pense que le plus connu, ça reste quand même le préservatif et la pilule féminine, dans ce qui est connu. Alors, il y a des pilules de contraception masculine qui commencent à... Enfin, même pas qui commencent à être discutées dans le grand public, on va dire, même si ça existe depuis un petit moment. Sinon, il y a des moyens de contraception naturels, dans le sens où, par rapport au cycle d'ovulation de la femme, etc., on peut calculer... Je ne suis pas un expert, évidemment, mais je sais que c'est aussi possible par rapport à l'homme, au cycle menstruel. Qu'est-ce qu'il y a comme moyen de contraception ? Il y a aussi le préservatif féminin, qui n'est pas très connu aussi du grand public. Je sais qu'il y a même des appareils... Alors, pour les hommes, j'avais entendu parler de ça, j'ai peur de dire une connerie, mais il y a quelque chose... J'avais entendu parler de sous-vêtements qui rafraîchissaient les parties intimes, ou alors qu'ils les chauffaient, je ne sais plus. C'est chauffé, c'est ça. Et du coup, ça permettait aussi aux spermatozoïdes de ne pas être féconds, ou alors de... Après, les lister... Là, j'en ai pas en tête. Peut-être qu'au fur et à mesure de la conversation, ça me reviendra.
La pilule, la capote, le stérilet... Le slip chauffant, on n'est pas sûr du terme, mais le slip chauffant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, déjà, vas-y, cela c'est pas mal.
Récapitulons, il y a la pilule, l'implant, le stérilet, l'injection et le préservatif. Mais il y a aussi l'anneau vaginal, le patch, diaphragme, cap cervical et le préservatif interne. Vous le saviez ? Il y a aussi des moyens de contraception définitive, comme la vasectomie pour les personnes ayant un pénis et la ligature des trompes pour les personnes ayant un vagin. Je trouve qu'on est vachement désinformé et c'est dommage qu'on nous ait pas appris dès le collège avec leurs cours d'SVT tous ces types de contraception. À part nous apprendre à mettre une capote sur un pénis en plastique et la pilule, personnellement, je ne connaissais pas du tout l'implant ou même le stérilet. Vous allez voir qu'avec les réponses des étudiantes et des étudiants, que ces cours nous apprenaient rien.
Où avez-vous appris les différents types de contraception ?
Principalement sur Internet, par des recherches personnelles et au fur et à mesure que mon moyen de contraception me convenait plus, d'aller chercher sur Internet d'autres moyens. Il y a le site Trouver ma contraception qui était pas mal du tout pour ça, mais sinon c'est que de la recherche personnelle.
Au fur et à mesure de mes rencontres, je dirais que ma copine y est pour beaucoup. Elle m'a beaucoup appris ce qui existait du point de vue des femmes, aussi des hommes. Je pense que dans la société actuelle, on nous dit plutôt que c'est aux femmes que c'est aux femmes de prendre la contraception, alors que maintenant c'est aussi possible pour les hommes. Je pense que c'est tellement rentré dans les mœurs d'une mauvaise manière que maintenant même les hommes n'y croient pas en quelque sorte. Mais moi je sais qu'en tant qu'homme, la pilule masculine c'est quelque chose qui m'intéresse et j'y ai même déjà songé. Donc du coup c'est bien, j'espère que ça va s'ouvrir plus au grand public comme je disais.
Sur internet... je crois que c'était sur le site du planning familial, mais peut-être ailleurs. Et sinon, on en parle un peu aussi entre copines. Et du coup, ça permet aussi de voir, disons, les aspects négatifs et de mieux choisir aussi sa contraception.
Où avez-vous appris les différents types de contraception ?
Je crois qu'on en a parlé un peu au collège, mais sinon, au fur et à mesure des discussions et en grandissant en fait avec mes amis et ma famille.
Où avez-vous appris les différents types de contraception ?
Alors, pas à l'école, très clairement, à part le fameux coup de la SVT où ta prof met une capote sur un zizi en plastique en polystyrène. Mais à part ça, écoute, beaucoup de conversations, de bouche à oreille aussi, en mode il y a ça qui existe, tiens, je ne sais pas si tu connais. Et donc, ouais, plus via les amis et l'entourage, je dirais. Et aussi un peu aussi les nouvelles vidéos YouTube aussi, on voit de plus en plus en fait de vidéos qui parlent de ça et donc quand ça m'intéresse, je clique.
C'est quand même incroyable de voir que certains et certaines professionnels de santé ne connaissent pas tous ces moyens de contraception. Est-ce qu'on vous a appris l'arrivée de la contraception en France ? La contraception a été légalisée en France qu'en 1967 grâce aux militantes de la MLAC, Mouvement pour la liberté et l'avortement et de la contraception. Elle est officiellement remboursée qu'en 1974. Quant à la pilule du lendemain, elle a été disponible en pharmacie qu'en 1999. C'est quand même très récent que, au début, j'avais du mal à y croire. J'ai appris cela grâce au livre « La charge sexuelle » écrit par Clémentine Gallo et Caroline Michel. Pour revenir à la pilule, ce qui m'indigne le plus, c'est qu'on nous prescrit la pilule automatiquement sans même nous présenter les autres contraceptions.
Est-ce qu'un professionnel de santé vous a déjà prescrit une contraception sans vous proposer d'autres moyens de contraception ?
Oui, du coup, typiquement sur la pilule. Le premier moyen de contraception que j'ai eu, c'était la pilule parce que c'était évident que ça soit ce mode de contraception-là. Et en fait, c'est un mode qui ne me convenait pas du tout. Mais comme c'était normal de prescrire la pilule à une jeune fille de 16 ans, comme tout le monde, ça a été mon premier moyen de contraception.
Oui, parce que je suis passée à la pilule et en fait, le médecin ne m'a pas vraiment présenté les autres types de contraception. Oui.
C'est pas parce qu'on a des douleurs de règles, des kilos en trop ou de l'acné que la pilule est le remède miracle, alors qu'elle nous apporte plus de problèmes qu'autre chose. D'après le livre « Notre corps, nous-mêmes » écrit par des femmes pour les femmes, les effets secondaires de la pilule sont prise de poids, maux de tête, tristesse ou même dépression, baisse de la libido, douleurs de règles, et on peut même encourir une phlébite ou encore mieux une embolie pulmonaire. Waouh, c'est génial la pilule! Je remarque aussi qu'on nous prescrit la pilule sans nous proposer d'autres moyens de contraception. Et finalement, quand j'ai été demandée aux étudiantes et étudiants, on peut voir que je ne suis pas la seule à qui ça arrivait.
Est-ce que l'on vous a déjà prescrit une contraception pour d'autres raisons que votre vie intime ? Exemple, règles, poids, acné ?
Non, à chaque fois c'était pour... Et en même temps, maintenant que je te le dis, non, en fait si, ma première pilule, elle m'a été prescrite parce que j'avais des douleurs de règles et que... Mon médecin m'avait dit que ça me permettrait d'avoir moins de douleurs.
Ça me révolte de savoir que les personnes qui doivent être à notre écoute pour choisir la meilleure contraception pour notre corps nous proposent pas de différentes contraceptions et prescrivent seulement la pilule. Il est le moyen le plus utilisé en France, avec 32,8% de femmes qui la prennent, alors qu'il représente seulement 9% des contraceptifs dans le monde. C'est ce qu'on nous apprend le livre « Notre corps, nous-mêmes » que j'ai cité précédemment. Parlons des refus de contraception par les professionnels de santé. Personnellement, un professionnel de santé m'a refusé de me poser un implant car j'étais jugée trop grosse et que j'allais devenir obèse s'il me posait. Donc il voulait vraiment me prescrire une pilule. J'ai été tellement choquée de cette situation que j'ai préféré rien dire. Les étudiantes de Rennes 2 vont vous partager leur réponse sur le fait de refuser de prescrire une contraception.
Est-ce qu'on vous a déjà refusé une contraception ?
Non, on ne m'a pas refusé. Par contre, ça m'est arrivé d'aller chez mon médecin, de lui dire « je veux ça comme contraception » et que lui soit obligé de chercher ce que c'est parce qu'il ne savait pas.
Est-ce qu'on vous a déjà refusé une contraception ?
Non, mais en même temps, je ne vais pas voir beaucoup de médecins pour leur demander. Là, par exemple, je suis repassée au préservatif depuis 2 ans et... Et même si je sais qu'il me faudrait une autre contraception, j'arrive pas à aller voir de médecin ou de gynéco parce que je crois que ça me fait un peu peur. Donc on me refuse rien parce que je demande rien en fait. Voilà.
Parlons de la pilule du lendemain. Comme je vous ai dit précédemment, elle est disponible en pharmacie que depuis 1999. Pour rappeler à quoi elle sert, c'est un comprimé qu'on prend en cas de rapport à risque. Exemple, capote qui déchire, oubli de pilule ou l'anneau vaginal qui s'expulse du vagin. Plus elle est prise le plus tôt, plus elle est efficace, même si c'est pas fiable à 100%. J'ai appris qu'elle était presque inefficace quand on pèse plus de 70 kg. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi ça me choque énormément. Donc quand on n'est pas dans la norme de poids par la société, on peut pas prendre la pilule du lendemain ? La pilule du lendemain en pharmacie coûte entre 7 et 18 euros. Elle est gratuite et anonyme pour les mineurs. Malheureusement, beaucoup de femmes ont honte d'aller chercher cette pilule du lendemain à cause de la peur du jugement ou du manque d'anonymat dans certains quartiers ou villages. J'ai lu un témoignage qui m'a rendue abasourdie. Je vous laisse écouter Estelle, 26 ans.
Je suis allée à la pharmacie pour acheter la pilule du lendemain. J'étais mineure et le pharmacien ne voulait pas me la donner. Il m'a dit que je n'avais pas à avoir de rapport sexuel, que mes parents n'étaient sûrement pas au courant et j'ai dû aller l'acheter dans une autre... pharmacie.
Les pharmaciens et pharmaciennes qui jugent qu'on vient prendre la pilule du lendemain, alors qu'ils et elles ne sont pas censés nous juger, c'est hallucinant. Passons du côté des étudiants avec qui j'ai pu parler de contraception masculine. Voyons ensemble si les hommes utilisent aussi des contraceptifs et où ils ont été informés.
Avez-vous déjà eu recours à la contraception masculine ?
Alors, hormis le préservatif, non. J'ai pas encore eu l'occasion. Mais comme je disais précédemment, oui, si jamais, bon, là en ce moment je suis avec ma copine depuis très longtemps, etc. Donc du coup, elle s'est fait poser un stérilet, donc du coup la question ne se pose plus. Mais il y a aussi le stérilet. Ah, voilà, je l'avais oublié la première. Il y a aussi le stérilet, exactement. Et du coup, la question ne se pose plus, mais je sais que j'y avais déjà songé précédemment, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Non.
Qui vous a informé sur la contraception masculine ?
C'est ma mère, figurez-vous, qui m'a dit « Mon fils, maintenant que tu es grand, il faut que tu saches que c'est aussi possible, donc arrête d'être égoïste et de demander à ce que ce soit les nanas qui le fassent. » Donc du coup, voilà, j'ai eu cette chance. Malgré tout, je n'ai pas encore pu tester, mais je pense que c'est quelque chose qui... De toute façon, en vrai, les filles, vous prenez tellement cher avec tous les hormones, les trucs comme ça. Il y a peut-être un moment, on peut switcher aussi, peut-être, ce serait cool.
Est-ce que vous connaissez d'autres moyens de contraception pour les hommes ?
Ben justement, ce que je disais là, c'est que j'ai appris l'existence du slip chauffant il y a, allez, vas-y, 6 mois. Et c'est vrai que je connaissais pas du tout. Et vraiment, bah, pour l'instant, dans mon entourage, personne utilise ce moyen-là. Mais à mon avis, ça va venir parce que, bah, au final, c'est une alternative intéressante, je pense.
Avez-vous déjà eu recours à la contraception masculine ?
Et bah, du coup, non.
Qui vous a informé sur la contraception masculine ?
Waouh, ah, je sais pas ça. Tiens, bonne question. Sans doute pas des mecs. Sans doute pas des mecs. Et après, je saurais pas te dire exactement, mais sans doute pas des mecs.
Même si la contraception masculine commence à arriver, on voit quand même que la charge sexuelle est plus subite par les femmes. Par exemple, sur le site choisirsacontraception.fr, sur 15 méthodes de contraception, 4 sont seulement pour les hommes, alors que les 11 autres sont pour les femmes. Ces 4 méthodes sont le préservatif, le retrait, la vasectomie et l'abstinence périodique. Moi, ça me fait rire que le retrait et l'abstinence soient des contraceptifs, je sais pas pour vous. J'ai donc demandé aux étudiants s'ils trouvent que le retrait est une contraception. Pensez-vous que le retrait est un moyen de contraception ?
Donc déjà, le retrait, là, je viens d'apprendre le mot, je te jure, je connaissais pas. Et du coup, non. Non, clairement pas, non.
Non, je pense que... Ou alors c'est le moyen de le contraception le moins fiable du monde, je pense, parce que... Parce que c'est tellement... En fait, non, je pense que c'est une fausse idée et que de toute façon, il n'y a pas forcément besoin d'une éjaculation à proprement parler pour pouvoir tomber enceinte. Et en plus de ça, on n'est pas protégé contre les maladies sexuellement transmissibles. Donc du coup, non, le retrait, non, c'est une belle connerie.
Je vais vous faire un petit listing des différentes contraceptions masculines mises en place et je trouve ça important de vous en parler. Il y a donc le fameux préservatif, la vasectomie, l'hyperthermie testiculaire, autrement dit le slip chauffant, et la pilule masculine. Depuis tout à l'heure, je parle de contraception, mais je vous ai dit que j'allais aussi vous parler des violences gynécologiques. Qu'est-ce que des violences gynécologiques finalement ? Les étudiants et les étudiantes vont vous répondre.
Pour vous, qu'est-ce que des violences gynécologiques ?
Ben écoute, en vrai, je ne sais pas. Enfin, j'ai peut-être une idée, mais je sais pas, j'ai peur de dire des bêtises. Je pense que quand t'es pas à l'aise avec ton gynécologue et que la personne te met pas dans des bonnes conditions pour pouvoir parler de justement des moyens contraceptifs, de protection qui existent, et au final elle va se contenter simplement d'exécuter ce qu'elle sait sans pour autant avoir beaucoup d'empathie. J'ai l'impression que c'est ça, mais peut-être que je me trompe.
Pour vous, qu'est-ce que des violences gynécologiques ?
L'absence de consentement sur la pratique des actes gynécologiques, le fait que ce soit socialement acquis en fait que quand on va chez le gynéco, on est obligé d'avoir un frottis, d'être examiné, etc. Et qu'en fait, ce serait un passage obligatoire, et que ça, c'est une forme de violence aussi, de dire que l'examen gynécologique, c'est forcément un ensemble de gestes qui sont absolument pas obligatoires, et qu'il y a un gros manque d'informations sur en effet ce qui est recommandé, parce que rien n'est obligatoire, et ce qui doit être fait. Et je pense que c'est ça en fait les violences, à la fois l'absence de consentement et le fait qu'il y a une normalisation de certaines pratiques alors qu'elles sont pas obligatoires du tout, quoi.
Des violences gynécologiques, alors je sais pas vraiment, j'ai peur de dire une connerie, mais du coup c'est les violences faites par des praticiens du coup par rapport aux femmes. Bah, j'en avais déjà entendu parler. Je sais qu'il y a des hommes comme des femmes qui sont assez irrespectueux quant au confort de la personne, dans le sens où je pense que c'est quand même important, parce que c'est une pratique un peu intime, donc c'est important de respecter la personne, de pas violer son intimité, ou même la violer tout court pour le coup. Et du coup, j'en ai déjà entendu parler, je m'y connais pas assez sur le sujet pour pouvoir en parler, je pense, en tout cas de manière pertinente. Mais je pense que c'est un sujet, ouais, qui mériterait d'être plus abordé, parce que c'est réel, et que vu que c'est tabou, il y a sûrement des gens qui n'osent pas en parler et qui ont vécu des choses. Donc du coup, j'en ai déjà entendu parler, mais pas assez, je dirais.
Un médecin ou une gynécologue qui, comment dire, qui pendant un examen n'est pas à l'écoute de son patient, ne prévient pas quand elle fait des gestes et brusques, et qu'elle ne demande pas l'accord à chaque geste à son patient.
Tous les actes qui ont l'air banals comme ça, mais qui sont pas du tout banals. Après, c'est vrai que moi, j'ai jamais été voir de gynéco, donc j'ai pas eu d'expérience personnelle qui relève des violences gynécologiques, mais voilà.
Alors, les violences gynécologiques sont plusieurs actes commis par des professionnels de santé qui sont irrespectueux et violents à l'égard du patient. Par exemple, le fait de demander combien de partenaires on a eu et de nous juger par rapport à cette réponse est une violence gynécologique. C'est aussi le fait de nous toucher sans nous prévenir, ou de nous faire mal sans s'occuper de notre douleur. Nous refuser une contraception en nous jugeant est une violence gynécologique. C'est beaucoup trop banalisé, il faudrait changer les choses. Les étudiants et étudiantes vont nous dire si pour eux les violences gynécologiques sont banalisées.
Trouvez-vous que l'on banalise les violences gynécologiques ?
Oui, justement, du coup, parce que ce serait normal, en fait, d'être examiné au spéculum à 16 ans lors d'un premier rendez-vous, et que du coup, en fait, comme ce serait un soi-disant parcours de soins obligatoire, ouais, c'est normal, en fait, qu'on fasse subir ça à des jeunes filles qui... où il n'y a pas d'obligation médicale, et ensuite que rien n'est obligatoire en fait à partir du moment où on est sur ces questions-là. Quoi.
Trouvez-vous que l'on banalise les violences gynécologiques ?
Bah du coup ouais, je pense parce que j'ai entendu 2-3 histoires où justement il a fallu changer de gynécologue parce que justement pas adapté, ou tout simplement bah voilà, je pense que c'est comme avec un docteur, tu dois te mettre tout nu, montrer tes parties intimes, c'est normal, c'est un check-up, mais je pense que tu vois par exemple en tant que garçon, je pense que ça mettrait plus à l'aise de le faire avec un garçon, du coup j'imagine que chez le gynécologue c'est un peu la même chose, et que du coup je me fais une idée ouais de la souffrance que ça peut être.
Je sais pas trop, je sais qu'on n'en parle pas assez en tout cas.
D'un côté, elles sont assez banales et en même temps, je trouve qu'il y a une prise de parole là-dessus, donc elles sont amenées à être de moins en moins banales, je pense.
Est-ce que vous pensez que la désinformation sur les moyens de contraception est une violence gynécologique ?
Je pense que la désinformation sur les contraceptions, c'est quand même quelque chose de très important. Je pense par exemple à la belle connerie qui sont les cours d'éducation sexuelle quand on est en études, que ce soit en primaire, au collège, lycée, etc. Bon, après on n'en a plus. Mais je pense que oui, c'est quelque chose que... Il y a énormément de désinformation là-dedans. Je ne sais pas si on peut les mettre en lien avec les violences gynécologiques, parce que, enfin, de ce que j'ai décrit par rapport aux violences gynécologiques, pour moi c'était plus quelque chose... qui arrivait dans ce cadre-là. Après, je pense que du coup, cette désinformation peut entraîner des violences, qu'elles soient gynécologiques ou autres. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du retrait. Je suis sûr qu'il y a plein d'hommes qui doivent être persuadés que j'ai la bonne solution et je vais faire ça, alors qu'au final, c'est complètement con. Et donc, du coup, est-ce que c'est forcément lié ? Je ne sais pas, mais je pense que ça peut être un facteur, en effet, ouais.
Est-ce que pour vous, la désinformation des moyens de contraception est une violence gynécologique ?
C'est peut-être un mot fort, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que c'est hyper important comme sujet et je peux comprendre certaines femmes qui le voient comme ça.
Du coup, oui, ça peut l'être en fait en ne proposant pas d'alternative, en ne proposant pas de choix, en fait, sur... Du coup, à partir du moment, en effet, où on a nos premières règles, on est censé avoir un mode de contraception, on est censé se protéger, qui a une forme de devoir, en fait, des jeunes filles d'être protégées. Et du coup, que la société fait peser, en tout cas. Et que du coup, en fait, c'est normal. En fait, je pense qu'il y a une normalisation de plein de choses qui ne sont pas normales et qui devraient être beaucoup plus discutées. Et que, en fait, le fait d'avoir le choix... et de ne pas laisser la possibilité d'avoir le choix, oui, c'est une forme de violence.
Trouvez-vous que la désinformation des moyens de contraception est une violence gynécologique ?
Je dirais que oui, parce que par exemple, on va peut-être forcer parfois les jeunes filles à prendre la pilule alors qu'elles auraient peut-être d'autres moyens de contraception.
Très bonne question, hein. Franchement... La désinformation, dans quel sens tu peux me...
La désinformation, par exemple, on ne parle pas des autres moyens de contraception, on parle que du préservatif et de la pilule. Ouais. Par exemple, la pilule masculine, on n'en parle pas. Le fait qu'on ne sait presque rien sur la contraception, hormis le préservatif et la pilule.
Bah, moi, je pense que c'est un truc qui arrange bien les mecs, quoi. C'est-à-dire que tant qu'on n'en parle pas, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Et au final, je pense que c'est aussi plus structurel. Il y a donc la question des hommes, et avec un petit H, et la question aussi peut-être aussi au niveau de l'État et du gouvernement, quand on voit justement notamment ce qui s'est passé en Écosse sur les moyens de contraception gratuits pour tous et toutes, c'est hyper important et je pense que ça devrait carrément être une loi en fait, et donc qui obligerait en fait les pouvoirs publics à faire de l'information plutôt que de la désinformation. Après, je dirais pas que c'est de la désinformation, je dirais plus que c'est que c'est pas encore assez discuté, et c'est encore moins discuté à un niveau où ça le devrait, c'est-à-dire un niveau gouvernemental, quoi.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
De rien. Ça, c'était cool.
Si vous aussi, vous avez peur de consulter à cause des violences gynécologiques, je vous propose de consulter le site Gyn & Co, qui regroupe tous les professionnels de santé dits « safe » pour nous en tant que patients et patientes. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette chronique et je tiens également à remercier les étudiants et les étudiantes qui ont eu la gentillesse de répondre à mes questions. J'espère que ce sujet vous a plu et vous a permis d'avoir un autre œil sur la contraception.
Merci Ami pour cette super chronique qui nous a beaucoup appris sur les contraceptions.
On enchaîne en poursuivant nos questionnements sur la contraception masculine.
Ouais, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs hommes pour connaître leur rapport à la contraception et on a abordé d'abord les questions, les relations qu'ils ont avec leur partenaire.
Moi je suis en couple, la sexualité, je sais pas, on couche assez régulièrement. Après, contraception, elle porte un stérilet. Après, voilà. Moi, je suis pas contre de prendre une contraception masculine. Je trouve ça intéressant. T'as plusieurs moyens. T'as le slip chauffant qui, en fait, tue tous tes spermatozoïdes durant quelques heures, il me semble. Donc, voilà, ça te permet d'avoir une relation. Après, voilà. Je pense qu'ils ont parlé aussi des cachets, là, les comprimés. Des pilules, pardon. Donc après j'en sais pas énormément non plus, hein, tu vois. Là j'ai pas la mémoire là comme ça non.
Bah moi actuellement je suis en couple et depuis janvier et donc on s'est posé la question je pense de quelle méthode de contraception utiliser genre février-mars et à partir de là on a décidé d'utiliser un stérilet hormonal. Et pas contraception masculine, pas de contraception, comment ça s'appelle, préservatif, ou des choses comme ça, on voulait quelque chose de plus stable. Donc on sait que pour l'instant, on a deux partenaires exclusifs, et donc on s'est posé plutôt le problème de la contraception pour la naissance d'un bébé, et pas pour les maladies sexuelles. Parce que par exemple, les préservatifs, pour moi, c'est pas stable dans le sens où à chaque fois il faut acheter, il peut se casser. C'est quelque chose que moi je vois plus personnellement et ma copine aussi comme quelque chose d'occasionnel et plus que pour une relation de longue durée. Surtout si c'est exclusif plus ou moins, dans le sens où t'as pas besoin forcément de la protection contre les maladies, mais seulement un contrôle de la naissance, de la grossesse. J'ai commencé à m'informer avec elle. Avant, je ne connaissais rien. Et c'était pour moi la découverte d'un monde dont je n'avais aucune idée que ça existait. En moi, j'avais lu des choses sur la pilule pour les hommes, mais qui ne marchait pas, qui était en étude. Mais donc, pour moi, c'était quelque chose, il n'y avait rien qui marchait. Seulement récemment, j'ai découvert effectivement l'existence de, comment on peut les appeler, un caleçon réchauffé, un sous-vêtement réchauffé qui fait en sorte de diminuer la production de spermatozoïdes. J'ai pensé que au début ça m'a vachement étonné parce que moi j'aimerais plutôt plus ou moins informé sur les méthodes de contraception et découvrir une nouvelle méthode que je connaissais zéro, mais vraiment pas. Et surtout pour les hommes, c'était assez étonnant. Et la première chose que je me suis dit, ok, si ça marche, j'ai plus d'excuses. Il faut aussi prendre en charge cette responsabilité parce que de toute façon, aussi dans les couples avant celle-là, c'était toujours vu comme la responsabilité de la femme. Et donc quand j'ai découvert ça, pour moi, c'était vraiment ok, bon, si ça marche, c'est ma tournée.
On a voulu savoir aussi avec qui les mecs parlaient de contraception.
Grâce à des femmes qui m'ont beaucoup sensibilisé et qui, à un moment donné, ils ont trouvé la porte d'entrée pour me sensibiliser à certains sujets. Et peut-être moi aussi, j'étais dans un état d'esprit où j'étais un peu à l'écoute de ces choses-là. Mais oui, c'était pas grâce à moi ou à mes intérêts personnels ou à mon avis personnel. C'était les personnes autour de moi qui m'ont sensibilisé.
Avec mes amis mecs, non, pas vraiment. Après, ça dépend, ceux qui sont en couple, ok, tu vois. Mais sinon, c'est plus avec des copines. Ouais, je me rends compte que c'est plus souvent avec des femmes qu'on en parle. Moins avec les hommes, mais il y en a qui en parlent aussi, enfin, qui sont même intéressés. Parce qu'on nous a habitués à ça, je pense. On peut toujours parler de la contraception, que les filles doivent se protéger. Il y a le truc des règles, la pilule. Même quand on parle de pilule du lendemain, quoi, c'est, C'est toujours une femme qui doit...
Malheureusement, si je regarde autour de moi, c'est surtout de femmes qui sont très sensibles quand on parle ensemble de ces sujets-là. Mais avec les hommes, on n'arrive jamais à aborder naturellement ce discours. Par exemple, quand moi j'ai découvert la contraception masculine, naturellement, j'ai commencé à en parler autour de moi. Mais sinon, ce n'est pas des sujets qu'on aborde normalement. Et donc oui, j'ai des interlocutrices, mais pas des interlocuteurs peut-être.
Bon, on a compris, c'est encore une fois les meufs qui font de la pédagogie pour éduquer les mecs là-dessus. Mais comment ils expliquent un tel déséquilibre ?
Déjà, il y a une question du rôle social. Ça veut dire que depuis je ne sais pas combien de temps, on met le rôle social de la femme, tout le poids de la reproduction, on le met sous la femme. Donc naturellement, qui doit empêcher la reproduction le moment où on ne le veut pas ? C'est la femme. Après... il y a un côté aussi, de l'autre côté aussi pour les hommes, je pense. Nous, on est moins habitués à réfléchir à toutes ces choses-là, aussi parce que nous, toujours dans l'image qu'on devrait avoir dans la société, on est les gars, on est les hommes qui vont à chercher les femmes, qui vont à conquérir les femmes, des choses comme ça. Donc pourquoi à nous de s'inquiéter ? Nous, on doit s'inquiéter plutôt d'être tous des hommes forts et avec des succès avec les femmes. Donc pour moi, c'est toute une question de rôle. Et après, pour mes copains, j'ai dit que c'est confortable, que c'est que leurs copines y pensent, parce que même quand tu commences un peu à réfléchir à ces sujets-là, à te déconstruire, comme on dit aujourd'hui, c'est plus simple, c'est plus facile de ne pas arriver à ces points-là et de se poser la question, vraiment de prendre en main les mêmes sujets, les sujets mêmes.
Pour finir, on a interrogé Aurélien, membre du collectif brestois Thomas Boulou, qui milite pour plus d'égalité dans la responsabilité de la contraception. Ils défendent notamment le slip chauffant, également appelé remonte-couille toulousain.
Je pense que ce n'est pas une fatalité, que les hommes peuvent prendre leurs responsabilités dans ces domaines-là, comme nous on croit, on se dit un petit peu aussi que si les hommes prenaient plus leurs responsabilités dans le domaine de la prévention des IST et de la contraception, ils seraient aussi plus responsables pour ce qui est de la parentalité, par exemple, et puis de tous les aléas d'une relation amoureuse aussi. Enfin, il y a la responsabilité affective aussi, relationnelle. Et tout ça, c'est un gros chantier qui est largement politique, que nous, en tout cas dans notre groupe, on essaye de penser conjointement avec le travail qui est fait par les groupes féministes, qui ont leur travail à faire qui nous concerne pas, leur lutte à mener et leurs choses à organiser qui nous concernent pas forcément. Mais nous, on s'est dit de notre côté qu'on pourrait essayer de travailler à ce que les hommes soient un peu plus conscients de toutes ces choses-là, qu'ils se mettent déjà à réfléchir, éventuellement à changer un petit peu certaines pratiques, et que peut-être que s'il y a de plus en plus d'hommes qui rentrent dans une démarche de responsabilisation à tous les niveaux, là, au niveau de leur sexualité, eh ben, quelque part, ça viendrait faciliter le terrain ou soutenir en tout cas les luttes des femmes aussi. Je pense que c'est un gros chantier et que nous, on fait nos interventions, on touche pas mal de monde. À chaque fois qu'on va quelque part, il y a 10, 20 personnes, 30 personnes qui viennent nous voir, discuter avec nous et tout ça. Bon, mais à l'échelle de la France ou du monde, ça change pas grand-chose. Hein, mais on fait notre petit travail et on espère par boule de neige comme ça que ça fasse un petit peu élever le niveau de conscience générale des hommes.
On comprend donc que la responsabilité de l'homme dans la contraception est quasi inexistante. On déplore le manque de notoriété des moyens de contraception testiculaire et une fois de plus, on déplore les racines patriarcales de toutes ces questions.
Donc les gars, informez-vous, prenez votre part de responsabilité et allez jeter un œil au site des Thomas Boulot, www.boulotshow.free.fr.
Les mecs, prêts à lâcher les chiens ?
La radio sauvage.
Oh, ça je peux vous dire que ça fait plaisir.
On va maintenant écouter une musique qui te tient énormément à cœur, je crois, Amy.
Ouais, j'avais très envie de vous faire écouter le titre « Ma petite » de Rachel Allison en featuring avec Meryl. On écoute ça maintenant.
Parle-moi si ton ton te touche, n'aie pas peur, dis-moi, il n'a pas le droit. Okay. Si choisi que c'est mieux que maman ne sache pas. Tu sais bien qu'elle aura mal à cause de toi. Chérie, parle, parle, demande de l'aide. Aucun vrai papa ne fait ça. Baby, baby, balai, balai, même si il rêve. Un set épique et manier, moi c'est ok. Redoutable phobie de voir un chien t'approcher. Pitié qu'on grimpe et pas laisser s'arriver. Comme personne ne peut pas dire autre livre, franchement. Si ça t'en tenait un sac plein de chaises, dans ton médaille. Ma petite dehors, c'est quand? J'ai mieux à t'offrir aussi silence et d'or. Je réveille le quartier si jamais t'as mal. Je te rendrai justice avant les cops. Parle-moi si tonton te touche. N'aie pas peur, dis-moi, il n'a pas le droit. Si jamais Seigneur se touche, je suis pas.
C'était Ma Petite de Rachel Allison en featuring avec Meryl. J'espère que vous avez kiffé.
Ici Radio Honolulu, les plus belles musiques de la plus belle des îles du Pacifique.
Syllabe.
Ah oui, c'est étonnant.
La radio sauvage.
C'est cocker.
On continue cette émission avec un deuxième sujet. On va parler biodiversité et environnement. Adèle, tu vas nous parler du déclin de la population des oiseaux. On t'écoute.
L'oiseau que vous entendez est un chardonneret élégant, une des espèces emblématiques de nos jardins, dont le nombre ne cesse de chuter. Ces oiseaux sont aujourd'hui au cœur de l'actualité environnementale. Le 31 mai 2021, un rapport de synthèse du programme de suivi temporel des oiseaux communs, dit STOCK, retrace l'évolution des populations d'oiseaux depuis maintenant 30 ans. Cette étude de grande ampleur est menée par le Muséum national d'histoire naturelle, la Ligue de protection des oiseaux, l'Office français de la biodiversité ainsi que le CNRS se sont également investis dans cette étude. Au sein de ce programme, un protocole scientifique a été mis en place pour récolter des données sur le déclin ou l'expansion de certaines espèces. Depuis 1989, plus de 2000 ornithologues bénévoles ont réalisé des observations sur plusieurs territoires ainsi que sur plusieurs périodes. L'étude de ces données donne un résultat sans appel. Le chardonneret élégant, passereau reconnaissable à sa face rouge écarlate, a perdu 31% de sa population ces 20 dernières années. Le roitelet huppé, le plus petit oiseau d'Europe, a perdu 44% de sa population. Le bruant ortolan, lui, a presque disparu du territoire français, avec une baisse record de 78%. 28% de la population globale des oiseaux a disparu en France depuis 1989. Ce constat alarmant fait frémir de nombreux et nombreuses scientifiques qui observent ce déclin depuis des années sans pouvoir agir. Mais pourquoi observer les oiseaux et s'intéresser à leur évolution ? Les oiseaux sont de bons indicateurs sur l'état de santé des écosystèmes. Cette étude met donc en lumière les impacts du réchauffement climatique sur l'avifaune. Si vous êtes novice en ornithologie, c'est-à-dire l'étude des oiseaux, vous devez vous demander ce qu'est l'avifaune. Eh bien, c'est tout simplement la population d'oiseaux dans un endroit donné. On parle d'avifaune pour désigner un groupe d'oiseaux vivant dans un milieu précis. Par exemple, le milieu urbain, le milieu agricole ou forestier. Cette étude met aussi l'accent sur l'impact de l'agriculture intensive, de l'utilisation des pesticides comme les néonicotinoïdes, au cœur de l'actu en ce moment. Ou encore l'étalement urbain. Les politiques environnementales mises en place depuis quelques années n'ont pas eu d'impact positif sur la préservation des espèces les plus en danger. Pourquoi ? Car les politiques environnementales ne sont pas assez strictes vis-à-vis de l'utilisation des pesticides et entre autres des néonicotinoïdes, insecticides qui agissent directement sur le système nerveux des insectes. Je vous le rappelle, les insectes sont une des principales sources d'alimentation pour les oiseaux. C'est tous les écosystèmes qui déclinent à cause d'un manque de volonté d'agir de la part de nos politiques. Face à ce manque d'action, la LPO a décidé de prendre les choses en main. L'association a assigné devant le tribunal de Lyon les producteurs d'imidaclopride, un nom barbare pour parler du nicotinoïde le plus commercialisé en France depuis 1991. La LPO demande une étude précise sur l'impact de cet insecticide sur l'avifaune française, mais également une interdiction immédiate de sa vente et de son utilisation, pourtant interdite en France depuis 2016. Voilà une enquête à suivre de très près. Aujourd'hui, chacun d'entre vous peut participer à la sauvegarde ainsi qu'à l'étude de ces espèces d'oiseaux. Mais comment faire ? Plusieurs actions sont lancées par des associations. Par exemple, la LPO et le Muséum d'histoire naturelle proposent des week-ends de comptage des oiseaux de nos jardins. Un exercice un peu fastidieux qui demande de reconnaître certaines espèces d'oiseaux. Mais les données que vous collecterez seront essentielles au suivi de ces oiseaux par les scientifiques. Heureusement, il existe des guides en ligne pour vous aider à reconnaître les différences entre une mésange bleue et une mésange charbonnière, par exemple. Pour cette séance d'observation assidue, durant une heure, soit le samedi ou le dimanche, dans un parc public ou privé, vous noterez tous les oiseaux qui se posent devant vous. Après votre observation, vous pourrez transférer vos résultats sur le site de l'observatoire de la LPO, oiseaudesjardins.fr. L'association Bretagne Vivante est une association locale qui vient de sortir un guide sur les 50 oiseaux de jardin et de nos campagnes en Bretagne. Très utile pour les balades entre amis et en famille. Apprendre à connaître les oiseaux de votre jardin ou du parc à côté de chez vous, c'est un bon moyen de faire plus attention à eux ainsi que de les préserver. Il existe aussi d'autres moyens de s'informer et d'agir. Je vous invite à aller voir le site de la LPO, il y a plein d'infos. Il y a aussi des médias spécialisés, comme le site lesoiseaux.net, ou encore sur la protection de la biodiversité, comme le site Reporter, qui sont très bien faits.
Merci Adèle pour ce sujet très intéressant. Désormais, vous avez les clés pour observer les oiseaux de vos jardins.
Dans la vie, il n'y a pas de problème avec les fatalités.
Et maintenant, un super morceau, c'est 10 Years de Daði Freyr, qui a représenté l'Islande à l'Eurovision cette année. On écoute ça tout de suite.
We've been together for a decade now. Still every day I'm loving you more. If I could do it all again, I'd probably do it all the same as before. I don't wanna know what I've happened if I never had your love. How did it become myself before I met you? I don't wanna know what I've happened if I never had found your love. Everything about you I like. We started out so fast, now we can take it slower. Love takes some time, takes a little time, so take a little time. As it ages like wine. How does it keep getting better? Every day I'll find a new way to prove the time we spent together. Simply feels good. We got a good thing going. And just when I thought that my heart was full, from places that I never explored. You're so fascinating, I can't remember the last time I was bored. I don't wanna know what would have happened if I never had had your love. How did it become myself before I met you? I don't wanna know what would have happened if I never had felt your love. Everything about you keep getting better. Every day I'll find some new way to grow. The time we spent together feels good. How does it keep getting better?
C'était 10 Years de Daddy Freer. On espère que vous avez dansé avec nous.
C'est qui elle ?
La radio sauvage.
Comment ?
Syllabe.
Bah, c'est super !
On poursuit notre programme avec une visite au musée de Bretagne. Julien, tu es allé visiter l'exposition Face au mur, actuellement ouverte au public. Tu as rencontré la directrice et commissaire du musée. On écoute votre échange.
L'exposition Face au mur est une exposition d'affiches réalisée entre 1970 et 1990. Elle traduit un certain engagement politique, social et écologique en rapport avec les nombreux événements qui ont eu lieu durant ces années-là. Elles y évoquent entre autres la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, la guerre du Vietnam, la volonté d'émancipation sociale et un désir de paix. Aujourd'hui, je suis avec Céline Chanas, directrice du musée de Bretagne et commissaire de l'exposition Face au mur. Bonjour Madame Chanas.
Bonjour.
Alors, cette exposition comporte plus de 130 affiches de diverses époques et pays. Comment en avez-vous acquis autant ?
Alors, l'exposition est le fruit d'un partenariat avec une institution située à Paris qui s'appelle La Contemporaine, qui est à la fois une bibliothèque, un centre de recherche situé notamment sur le campus de l'Université Nanterre et un musée. C'est donc une institution spécialisée dans la collecte et la valorisation de l'histoire du monde contemporain, des mondes contemporains. Il se trouve qu'ils avaient créer, on va dire, une première version de cette exposition que nous avons repris et amplifié, notamment en développant l'histoire de la Bretagne et des engagements des graphistes bretons pour un certain nombre de luttes sociales, sociétales.
Qu'apporte la scénographie réalisée par Pierre Verger et Stéphanie Vaya aux affiches exposées ?
Alors pour une exposition, pour concevoir une exposition, tout commence par bien sûr une idée, une thématique. Là on est sur la thématique du graphisme et des engagements des graphistes dans les années 70, 80, 90. On part également d'une collection d'objets, vous en parliez, les affiches. Et les affiches, quand elles sont produites, elles sont souvent destinées à interpeller un public pour le faire adhérer à une cause. Elles sont collées notamment sur les murs. Et c'est ce que nous avons souhaité apporter par la scénographie, c'est-à-dire donner finalement une dimension, trois dimensions à ces affiches. Et nous avons, outre les scénographes, travaillé avec une société de production spécialisée en audiovisuel et avec un réalisateur, Pierre-François Lebrun, pour donner finalement aux visiteurs cette plongée au cœur des affiches, au cœur des années 70, pour se placer en quelque sorte soit dans la position du colleur d'affiches, soit dans celui qui voit les affiches collées sur les murs des villes, sur les ponts. Quand on passe sous les autoroutes, on en voit souvent collées dans des endroits assez difficiles d'accès, sur des transformateurs, EDF ou autre.
1908, mais on a souhaité la retenir en fait, parce que c'est en quelque sorte l'une des premières exemples d'affiches politiques qui utilise justement le graphisme, voilà, avec un vrai travail sur le graphisme, alors que précédemment il y avait une présence du texte qui était beaucoup plus dominante. Et puis surtout, c'est un graphiste qui est issu de la région, parce qu'il est, c'est un Nantais, plutôt issu de la bourgeoisie au départ, mais qui va mettre ses engagements justement au service de la lutte en faveur des mouvements ouvriers. Et là, il s'agit en fait de la répression, enfin, de la dénonciation de la répression d'un massacre, hein, violence policière, on pourrait dire aujourd'hui, on est dans les termes actuels, qui a eu lieu à Villeneuve-Saint-Georges et où le sang a bien coulé, comme vous pouvez voir sur voilà, cette dualité, la police en noir, les sabres, et puis les ouvriers blancs, enfin du coup la question, la symbolique des couleurs est aussi très, très forte.
Dans cette exposition sont présentées des affiches des années 70 à 90. C'était un moyen privilégié d'expression durant ces années-là ?
Alors l'histoire de l'affiche, on va dire, elle remonte presque à l'histoire de l'imprimé. En tout cas, dans l'histoire de l'affiche, on se rappelle des premiers placards, hein, qui existent depuis le 18e siècle. Et avec la progression notamment des procédés techniques d'imprimerie au 19e siècle et au 20e siècle, l'affiche, et notamment l'affiche politique, va largement se développer. Alors on a une affiche datée de 1908 qui est une sorte de précurseur de ces affiches politiques, mais on voit que dans la foulée des années 68, où on va avoir une créativité très forte, notamment dans les ateliers des Beaux-Arts à Paris, se renouveler ce format qui va être largement investi par des graphistes français, mais bien sûr appartenant à d'autres pays, donc largement diffusé également à l'international, et soutenu par un certain nombre d'écoles, on pourrait dire, notamment en Pologne et à Cuba, qui vont constituer en quelque sorte des modèles pour la circulation graphiste de ces créateurs.
On sent une facilité de diffusion et de réalisation. C'était indispensable pour pouvoir s'exprimer librement et porter ses engagements.
Alors, une facilité de création, je ne sais pas. En fait, souvent, un dialogue s'établit entre le graphiste et le commanditaire. Il y a beaucoup d'affiches que nous présentons dans l'exposition qui sont issues d'un travail de commande, à savoir un parti politique, un syndicat, que sais-je, une institution culturelle souhaite faire créer une affiche et le fait dans le cadre d'une commande. Alors, comment s'exprime le graphiste ? C'est tout là l'enjeu de la commande, puisqu'à la fois, il doit respecter un cadre, une thématique, bien sûr, mais à la fois, il a une liberté de création et ça peut lui permettre aussi de faire passer un certain nombre de ses propres engagements.
Et alors, pour les affiches qui étaient créées sans commande, c'était là l'enjeu justement de l'affiche, d'avoir un média impactant et facile, entre guillemets, de réalisation, parce qu'on a juste à placarder une affiche.
Alors, dans les graphistes que nous présentons dans l'exposition, on a assez peu le cas, finalement, de ce qu'on pourra appeler d'affiches auto-éditées. On en a bien sûr certaines. Alors là, effectivement, on travaille pour soi-même, donc ça veut dire qu'on s'autofinance soi-même ou avec un cercle d'amis. On peut avoir aussi des affiches qui vont connaître d'autres moyens de circulation, comme par exemple les expositions ou les concours. Là aussi, c'est un mode finalement de circulation et de diffusion des affiches, tout comme le sont les revues. La Pologne ou Tricontinental, qui est une affiche cubaine, vont aussi être un moyen de faire circuler les créations de graphistes.
Et puis sinon, on a mis des affiches comme par exemple le studio Pushpin ou le célèbre, alors c'est une affiche, hein, une célèbre affiche qui présente un, on pourrait dire un logo, une marque universellement connue et utilisée, Peace and Love. Qui est rentré dans le langage commun, mais qui sont au départ utilisés dans des vocations commerciales, en fait.
Durant ces trois décennies, Donc entre 70 et 90, il y a eu des évolutions technologiques qui ont permis d'aider à la réalisation de ces affiches, de faciliter leur création, leur diffusion.
Oui, bien sûr. Alors on a à la fois un mélange dans la production de ces affiches de procédés très artisanaux, de fabrication... Voilà, en utilisant le mode de la sérigraphie, on a aussi des affiches qui sont imprimées en beaucoup plus en quantité plus importante et à des coûts moins, notamment avec en utilisant le procédé offset. Et puis on voit aujourd'hui que, on va dire, la destinée de l'affiche n'est pas complètement morte, même si, on va dire, la communication utilise largement d'autres moyens de diffusion comme les réseaux sociaux, mais aujourd'hui les modalités d'impression numérique permettent aussi de créer des affiches en peu de temps, tout comme la création assistée par ordinateur en fait. Donc on a quand même une révolution effectivement des techniques de conception et de production.
Alors justement, vous venez d'en parler, aujourd'hui l'affiche est moins utilisée, on privilégie les réseaux sociaux et internet pour faire entendre des revendications, ça a un impact ?
Alors, est-ce que ces réseaux sociaux ont un impact ? J'irais évidemment. Ensuite, ils n'ont pas le même impact, on va dire, dans l'espace public, puisque la particularité d'un réseau social, c'est qu'il est essentiellement numérique. Mais on voit aujourd'hui que des réseaux sociaux voilà, très influents utilisent et renouvellent ces moyens, finalement, qu'on pourrait qualifier de propagande ou de persuasion pour toucher nos consciences, en quelque sorte. Après, quelle est la destinée de l'affiche dans la rue ? Moi, je suis assez convaincue aujourd'hui que la rue reste un terrain d'expression parce qu'il y aura toujours des artistes qui auront envie de l'investir, parce qu'il y a toujours des manifestations physiques qui se déroulent. Voilà, simplement, le spectre finalement des moyens de communication et de persuasion, il évolue et je crois que les graphistes savent très bien également s'en saisir. Nos propres graphistes, par exemple, sont certains, en tout cas, sont présents sur les réseaux sociaux, notamment sur des réseaux qui valorisent beaucoup les images, hein. Je ne vais pas faire de publicité, mais je pense que vous voyez ce à quoi je pense.
Avoir la sélection complète, et puis surtout d'en avoir eu la prolongation, parce que là, avec une exposition qui devait mourir en novembre, on est sur des documents graphiques relativement fragiles. Donc là, on est sur une série de 9 affiches du collectif Grapus, qui est faite pour la seconde biennale de l'affiche à Varsovie, tout début des années 70, et voilà, qui figure... très nettement l'opposition et la dénonciation de la guerre du Vietnam et de l'intervention bien sûr américaine, puisqu'on voit pleuvoir sous le chapeau iconique voilà, de la population vietnamienne une pluie de bombes et un ciel qui vire voilà, à l'orange, au rouge, en passant par différentes teintes de rose qui rappellent aussi l'embrasement du napalm. Et puis progressivement, le ciel s'éclaircit pour devenir finalement un ciel quasiment sans bombe déjà et quasiment sans nuages avec la paix retrouvée.
Sur la page de l'exposition, on peut y retrouver deux affichistes bretons mis à l'honneur que sont Alain Le Kernec et Fanch Le Hennaf. C'est une volonté de mettre en valeur leurs engagements pour la Bretagne, notamment avec le naufrage de la Moco Cadiz et le projet de centrale de Plogoff.
Alors oui, bien sûr, nous avons la chance en Bretagne d'avoir deux graphistes qui ont une production très importante sur plusieurs décennies. Et c'est de la responsabilité d'un musée de mieux la connaître, de la documenter, de la valoriser. Alors il se trouve que nous avions eu un don de l'intégralité de la production des affiches de Fanch Le Hennaf en 2011. Et que c'est l'occasion, cette exposition également, de le valoriser. On a également pu l'interviewer, connaître aussi son processus de fabrication. Donc cela c'est important. Et puis l'autre graphiste qui est mis en avant dans l'exposition, Alain Le Kernec, a fait l'objet d'une vaste rétrospective qui a fait l'objet d'un livre édité chez Locus Solus l'année dernière. Et là le musée a plutôt complété sa collection puisque nous avions déjà un certain nombre d'affiches, mais là l'idée ça a été aussi de les choisir avec lui pour que lui nous dise aussi quelle étaient les affiches qui lui semblaient importantes dans sa production. Et je pense notamment à certaines affiches qu'il affectionne particulièrement, comme celle qui s'appelle Bretagne, ta conserve Foulcan, voilà, ou une autre affiche également qui dénonce, on va dire, les problématiques liées à l'emploi en Bretagne. Et l'affiche sur le gouvernement à les mains sales, l'affiche pour dénoncer aussi la responsabilité de l'État dans la marée noire, et aussi une affiche qui lui tenait particulièrement à cœur.
En fait, l'une parfanche le ENAF, celle qui s'appelle Pasqua Connection, et l'autre Liberté, Égalité, Fraternité, alors je ne sais pas si on peut dire sous-titré ou en surimpression, répression, sélection, racisme, ce sont deux affiches en fait, qui ont été faites dans un contexte, le milieu des années 80, où il y avait voilà, des mouvements antiracistes d'ampleur assez importante, voilà, avec par exemple le slogan « Touche pas à mon pote ».
Alors parmi ces 130 affiches, il y en a qui ont été particulièrement importantes pour leur époque ?
Alors, qu'est-ce que veut dire pour une affiche être importante ? Est-ce que ça veut dire qu'elle a été beaucoup vue, qu'on s'en rappelle dans la mémoire collective ? Ou est-ce qu'au contraire, ça veut dire qu'elle a une signification en termes d'innovation graphique particulièrement importante ? Voilà, en tant que musée de société, je dirais qu'il y a peut-être ces deux enjeux-là qui sont à repérer. S'il fallait n'en citer qu'une, parce que là, c'est celle qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est l'affiche « Décidons chez nous » qui montre le personnage de Bécassine, affiche qui a été créée par Alain Lekernec, commande du Parti Socialiste Unifié et qui appelle justement voilà, on va dire à l'unité de la gauche en vue de la conquête pour les élections et qui annonce finalement l'arrivée de la gauche au pouvoir. Donc cette affiche, je pense, est une affiche importante dans la mesure où elle a été beaucoup réutilisée, et notamment pour d'autres usages, des publications, des articles, des unes d'articles par exemple.
Alors justement, vous le disiez, la figure de Bécassine, donc c'était comme quelque chose de provoquant un peu pour les Bretons qui n'aimaient pas être affiliés à cette image. Il y avait une volonté de marquer les esprits, et est-ce que justement ça passait par la provocation dans les affiches ?
Alors tout dépend des graphistes, hein. Chaque graphiste a son registre d'intervention, mais il se trouve effectivement que l'interpellation, la provocation, l'humour font partie en tout cas du répertoire de graphistes que nous proposons, que ce soit Alain Lekernec ou Fañch Le Hénaff. C'est vrai qu'on est à une époque où la provocation, la volonté d'interpeller sont bien présentes. On n'est sans doute pas à l'ère du politiquement correct et on s'autorise effectivement pas mal de choses.
Par rapport à l'exposition, c'est une exposition qui peut être assez familiale, où on peut y aller donc parents-enfants, parce qu'il y a différents sens de lecture. C'est important aujourd'hui d'avoir une exposition comme ça qui peut être vue par beaucoup de gens.
C'est une bonne question. C'est important, effectivement, aujourd'hui, je pense, alors que les musées ont été fermés plus de 200 jours d'affilée, de retrouver le contact avec des œuvres réelles, en quelque sorte, et de pouvoir aussi échanger voilà, en famille, entre amis, sur des sujets très importants qui, pour certaines personnes, voilà, vont constituer une part de leur propre vie, de leur propre histoire, alors que pour des enfants plus jeunes, voire des étudiants, c'est de l'histoire. Et je trouve que cette confrontation, le dialogue intergénérationnel sur des sujets comme ça, il est hyper intéressant, puisqu'il permet aujourd'hui de mettre à distance ce que certains ont vécu de l'intérieur. Et je pense que ça, voilà, ça contribue aussi à l'enrichissement et à l'évolution, voire à la révélation peut-être aussi d'engagement politique chez les plus jeunes aujourd'hui, de voir les engagements de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs pères.
Merci à Julien et à Céline Chanas pour ce beau sujet. Ça donne vraiment envie de visiter l'expo et de découvrir ses affiches en vrai.
Cette exposition s'accompagne d'audioguides qui permettent une immersion au cœur de la création artistique. Vous pouvez aller la voir jusqu'au 3 octobre 2021. Et toutes les informations seront à retrouver sur la page du podcast et du Musée de Bretagne. Et pour un billet acheté pour l'exposition Face au mur, vous aurez un billet offert pour l'exposition Western, qui est une exposition de photos de Stéphane Lavoué. Une occasion à ne pas manquer.
Bah, je force volontairement le trait.
Arrête ton baratin, chérie. Syllabe.
C'est déjà la fin de cette émission. On est ravis d'avoir passé ce moment avec vous.
On remercie l'équipe de Syllab pour cette super expérience. On a adoré découvrir le monde de la radio avec vous.
On remercie aussi WeCare pour avoir proposé cet atelier super ludique.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Syllab, www.sy-lab.fr, rubrique Les ateliers radio.
Restez sur les ondes de Syllab, plein de belles choses vous attendent.